Voilà. Alors, je suis désolé pour cette panne de métro, en réalité, qui fait que je suis, on peut dire quand même, exceptionnellement en retard. Voilà. Et je propose du coup de commencer sans traîner davantage. Je voulais faire une remarque avant de commencer le propos de la séance de ce soir, une remarque qui est liée à la précédente séance et à une précision qui m'a semblé utile de formuler. Voilà. Donc je reprends le vocabulaire que vous connaissez maintenant de l'être en défaut d'origine, qui est une façon de définir l'être humain. Cet être en défaut d'origine, je l'ai défini séance après séance comme étant voué à exister et pas simplement à vivre, et pas seulement à vivre, pas seulement un vivant, c'est un existant. Il est existant d'ailleurs du fait même qu'il n'est pas équipé d'origine pour vivre. Donc l'existence, je dis bien, à laquelle est voué l'être en défaut d'origine, il faut que je le souligne, est relative aux équipements, aux munitions et aux convenances, hein, ce mot de convenance que je prends littéralement, hein, ce qui vient avec, ce qui convient. C'est une autre façon de dire peut-être équipement ou munitions sans lesquelles nous ne serions pas, c'est le cas de le dire, munis pour exister. Bon. Donc cette existence est relative au fait que l'être défaut d'origine doit être, ne peut pas ne pas être équipé, muni de convenances, qui toutes ou tous équipements, munitions et convenances passent par la technique, par de la technique, et sans lesquelles donc l'être en défaut d'origine ne pourrait pas même se poser la moindre question existentielle. L'existence trouve donc, c'est ça que je veux préciser, l'existence trouve donc sa condition dans des dispositions qu'elle ne choisit pas d'abord elle-même, qui plutôt l'entoure, on pourrait dire l'environne. Elle trouve donc sa condition dans des dispositions qu'elle ne choisit pas d'abord elle-même, l'existence, qui plutôt l'entoure et qui en fait la dépasse, hein, qui sont au moins antérieures à son propre commencement, donc qui la dépasse. Pourtant, et c'est l'autre précision à faire avant de continuer la réflexion, la possibilité de l'existence, qui trouve sa condition dans des dispositions antérieures à elle, la possibilité de l'existence requiert que ces dispositions-là, les munitions, les équipements, les convenances, aussi indispensables et inévitables soient-ils ou soient-elles dans leurs principes, la possibilité de l'existence requiert que ces dispositions ne soient pas administrées de manière irrémédiable et indiscutable. Autrement dit, en un langage beaucoup plus simple, nous ne pouvons pas exister sans technique autour de nous qui nous munissent. Et pour que nous puissions exister, il faut que ces munitions techniques ne soient pas administrées de manière irrémédiable et indiscutable, parce que si elles le sont, administrées de manière irrémédiable et indiscutable, alors on ne peut pas exister, au sens strict du mot, que j'essaye de soutenir depuis le début au moins de ce séminaire. De là, me semble-t-il, que nous pouvons nous demander si l'administration des équipements, des munitions, des convenances, de la technique donc d'une manière générale qui entoure la vie, de là que nous pouvons nous demander si cette administration de la technique n'est pas susceptible de régime qui serait plus ouvert, ou inversement, si vous voulez qu'on prenne la réflexion dans l'autre sens, plus fermé les uns que les autres à la possibilité de l'existence. Hein, peut-être qu'il y a des régimes de la technique qui sont plus favorables aux ouvertures, de sorte que l'existence, dans une certaine mesure, y est plus, ce qu'il faut dire, facile. Enfin, en tout cas, la possibilité de l'existence n'est pas barrée. Voilà. Alors que peut-être elle peut l'être dans certains régimes, pourquoi pas, on peut au moins faire l'hypothèse, dans certains régimes de la technique. Peut-être que ce que j'appelle à l'instant régime de la technique, je pourrais l'appeler aussi bien économie. Il y a peut-être des régimes économiques, des économies de la technique qui ferment des possibilités d'existence et d'autres régimes qui ouvrent davantage les possibilités d'existence. si de toute façon l'administration dont j'essaye de parler définit, si la technique définit le milieu fondateur, et même peut-être l'administration de la technique toujours une certaine administration de la technique définit un milieu fondateur, mais est aussi ce à quoi l'existence se rend au risque de manquer à exister. Je me rends aux conditions, au régime dans lequel la technique est administrée pour moi. Je m'y rends. Voilà. Au risque de manquer à exister. Toute la question est que l'administration de la technique ou l'économie de la technique ne se rigidifie pas à son tour en puissance d'interpellation et de convocation, ce qu'elle peut être, comme je voudrais le donner à penser, plus originairement que la politique. Et là, bien que je sois dans ma remarque entre deux séances, j'entame un peu quand même la séance de ce soir. Je pense, pour le dire vite, qu'il est possible, au moins examinons l'hypothèse, qu'existe un régime économique, un mode d'administration des convenances sans lesquelles il n'y a pas d'existence possible, hein, même si ce sont des convenances qui conditionnent l'existence. Il est possible, donc on peut faire l'hypothèse que les régimes économiques, au régime économique, à la puissance du régime économique, nous nous rendons plus originairement que nous nous rendons à tel ou tel régime politique. En fait, c'est ce que je pense, ou j'essaye de soutenir tout au long de ce séminaire, c'est que l'économie est plus originaire que la politique. Je vais en reparler, je pense, dans la séance de ce soir. Et on peut faire l'hypothèse, je pense qu'on est bien placé aujourd'hui, particulièrement pour la faire, pour dire que, de son côté, ce que j'appelle rapidement l'administration de la technique est capable d'interpeller et de convoquer le commun, hein, les existences communes, les existants communs. Voilà. Et peut-être même a-t-elle cette capacité, donc je répète, c'est une thèse, si vous voulez, qu'il faudrait quand même justifier, peut-être a-t-elle cette capacité plus originairement que la politique. C'est-à-dire que nous sommes convoqués, éventuellement interpellés, éventuellement par des requêtes, par les requêtes de l'économie, avant de l'être, éventuellement toujours, par celles de la politique. Certes, la politique peut mobiliser tout existant. Certes, la politique peut rendre générale, voire totale, la mobilisation qu'elle ordonne, hein, je rappelle en 1914, ordre de mobilisation générale qui vient bien de l'État, c'est-à-dire de la sphère ou de l'espace politique, enfin du régime politique. Autre expression qu'on a trouvée dans les années 30, la mobilisation totale. Certes, la politique est capable de ça, hein, de mobiliser de manière générale ou de manière total. La politique peut mobiliser tout existant, elle peut convoquer tout le monde, hein, sous les drapeaux par exemple. Elle peut rendre générale, voire totale, telle ou telle mobilisation qu'elle ordonne. On en a vu encore un exemple dans une certaine mesure au moment du Covid, hein, où au fond nous avons été mobilisés par une procédure d'ordre politique venant de l'État. Il n'empêche, c'est d'abord aux conditions que lui fait l'économie de son temps que chacun d'entre nous se rend. C'est d'abord aux conditions de l'économie de son temps que chacun d'entre nous se rend. L'économie qui soutient l'existence de ses convenances, ou pour mieux dire peut-être les dispositions depuis lesquelles l'existence est susceptible d'émerger, peuvent à leur tour et dans leur champ être mobilisatrices. On peut appeler totalitaires les circonstances dans lesquelles se produit une double et coordonnée mobilisation, qui est donc à ce moment-là à la fois économique et politique, ou économique non moins que politique. Peut-être puis-je, en tout cas, pour ce qui me concerne, appelé totalitaire dans le cadre de raisonnement et de concepts qui sont les miens dans ce séminaire, peut-être puis-je appeler totalitaire les circonstances dans lesquelles se produit une double et coordonnée mobilisation économique non moins que politique. C'est ce qu'on a vu en lisant Chapoutot à propos du régime nazi la dernière fois. On peut également dire, je crois qu'en pareille circonstance, je pense revenir un peu ce soir sur cette proposition, on peut également dire qu'en pareille circonstance, c'est-à-dire quand quand c'est totalitaire, quand il y a la double mobilisation coordonnée à la fois politique et économique, on peut également dire dans ces circonstances-là, historiquement, on l'a vu, la politique et l'économie excèdent leur raison d'être. Quand elles mobilisent totalement, d'une part, et quand elles mobilisent totalement ensemble, d'autre part, alors elles excèdent l'une comme l'autre, je dis bien, leur raison d'être. C'est-à-dire qu'elles cessent d'être, comme vous voudrez, raisonnables ou rationnelles. Il se passe autre chose à ce moment-là. Elles deviennent, à ce moment-là, l'une comme l'autre, excessivement présentes aux existants, et qui, du coup, ne peuvent plus exister. Il y a un excès de présence de l'économie et de la politique, on va dire, dans un langage courant, on dirait un excès de présence de la politique et de l'économie dans la vie. Et cet excès de présence, s'il peut nourrir des régimes totalitaires, il peut pas, il bloque l'existence. La précédente séance proposait de considérer, j'espère que vous en souvenez, que nous étions dans la tendance d'une disposition économique excessive. Et c'est pourquoi j'avais conclu en disant, en empruntant les concepts de Benjamin, le concept de tendance de Benjamin, que nous étions toujours, à cause de la thèse donnée par Chapoutot que j'avais décrite et que vous connaissez probablement, elle consiste à dire que le management qui s'est mis en place à l'époque nazie s'est reconverti dans les sociétés capitalistes occidentales d'après la Seconde Guerre mondiale, ce qui m'a conduit, moi, à dire nous sommes toujours, non pas dans un moment de totalitarisme qui supposerait qu'il y ait convergence coordonnée de la politique et de l'économie, mais nous sommes dans la tendance d'une mobilisation économique excessive, au moins, je crois qu'on peut dire ça. À partir de la séance qui vient, donc à partir de maintenant, je voudrais, à l'inverse pour ainsi dire, dessiner les contours d'une idée où la politique ne serait pas excessive. Voilà. Si c'est clair ce que j'ai dit jusqu'à présent, je voudrais consacrer au moins la séance qui vient, et en fait, je pense aussi la prochaine qui sera la dernière, en tout cas pour cette année, je voudrais, comment dire, essayer de vous faire des propositions qui dessinerait, je répète ma formule parce que j'y tiens, les contours d'une idée où la politique ne serait pas excessive. Donc évidemment, je joue sur les mots comme d'habitude. Si c'est une idée de la politique, ce dont je vais parler, c'est pas de la politique telle qu'elle existe effectivement, telle qu'elle se produit effectivement. Je vais parler de la politique idéale, d'un idéal, à la fois d'un idéal politique et même peut-être, ce serait plus juste de dire, d'un idéal de la politique. Et je suis bien conscient, évidemment, que je vais parler idéalement de la politique. Voilà. On y va pour ce soir. Alors, selon la pensée héritée de l'Antiquité, bon, apparemment, ça coupe un peu avec le propos de la séance précédente, mais finalement, le séminaire de cette année, il aura été organisé, je me suis dit ça, plutôt qu'en séance qui se succède sur une voie discursive, logique, je dirais que c'était des points de vue, différents qui impliquent d'une manière ou d'une autre de réfléchir sur la libération, l'émancipation, etc., qui est le thème central. Donc je change pas de sujet ni de propos, mais peut-être de point de vue. Donc j'avais plutôt un point de vue économique la dernière fois. Là, je voudrais regarder les choses d'un point de vue plus politique. Donc selon la pensée héritée de l'Antiquité, le lieu où la communauté prend lieu et se manifeste à elle-même, c'est la cité. Polis, dans le vieux grec. Le lieu où la communauté prend lieu et se manifeste à elle-même, c'est la cité. Le peuple commun, lui, ne trouve pas son foyer dans la cité, au sens strict du terme, c'est-à-dire si on regarde la ville d'Athènes, la polis, c'est un espace restreint dans l'ensemble urbain. Bon. La communauté trouve son lieu dans l'espace restreint de la cité, au sens restreint du terme. Mais le peuple commun, lui, ne trouve pas son foyer dans la cité. Il est en dispersion. Il est au travail, dans l'oïkos, et le péri-oïkos ou péri-oïkidé, c'est-à-dire, je traduirai, dans les bourgs et les faubourgs, ou autre traduction possible pour certains mots qu'on trouve dans les textes d'Aristote, par exemple, si on veut ramener ces textes à nous pour les décaper, on pourrait dire les quartiers. Hein. Le peuple commun est en dispersion, le foyer du peuple commun, les foyers du peuple commun sont en dispersion au travail, dans l'oïkos, dans les bourgs, dans les faubourgs, dans les quartiers. Démos, initialement, c'est quartier. Dans la réforme de Clisthène au VIe siècle, démos, peut-être on pourrait traduire, c'est un découpage, une entité administrative qu'on pourrait nommer, après tout, pourquoi pas, quartier. Bah, le peuple commun n'a pas son foyer dans la police, c'est-à-dire le lieu de la communauté, mais, disons, pour aller vite, dans le démos, dans les quartiers. Une remarque d'Aristote nous apprend que pouvait se produire là, dans l'oïkos, dans les bourgs, dans les quartiers, dans les faubourgs, une remarque d'Aristote nous apprend que pouvait se produire là un art dont il n'est question ni dans la poétique, ni dans la politique, lorsqu'est nommé par Aristote le concept majeur, à savoir la catharsis, qui justifie contre Platon qu'il y ait des pratiques poétiques en dernière analyse utiles à la cité, c'est-à-dire à la politique. Alors, qu'est-ce que fait Aristote dans la poétique? Il écrit contre Platon, c'est très clair, puisqu'à un moment donné, il le cite. Enfin bon, faut juste faire le travail de lecture. Et autant Platon dit idéalement, dans la cité idéale, on n'a pas besoin de production poétique ou artistique, si on traduisait dans le langage d'aujourd'hui. Aristote écrit contre Platon sa poétique et justifie l'utilité des productions poétiques, l'utilité pour la cité, donc pour la politique, de productions poétiques à côté de l'espace poétique, politique, à savoir dans l'espace du théâtre, hein, qui, comme le faisait remarquer Nicole Laurent en son temps, à Athènes, le théâtre n'est pas sur l'acropole. Hein, donc alors pourquoi les humains développent-ils des pratiques poétiques? Platon disait idéalement, on n'en aurait pas besoin. C'est pas un idéal de la politique qui est à côté d'elle des pratiques poétiques. Aristote dit oui, d'accord, mais dans la politique réelle, dans la vraie vie, comme on dirait aujourd'hui, c'est bien utile quand même qu'il y ait ces pratiques-là parce qu'elles permettent qu'il y ait cette catharsis. Et le mot est prononcé deux fois par Aristote, une fois, enfin, en deux occurrences par Aristote, une fois dans la poétique et une fois dans la politique. Ce qui montre bien que pour lui, c'est un concept politique en dernière analyse. C'est tout ce que je veux dire, même si je ne développe pas ici le sujet. Alors, Aristote dit au début de la poétique, il y a un autre art que celui-là, dont il va parler dans la poétique. Il y en a un autre, dont peut-être il a parlé dans des textes qui ne nous sont pas parvenus. Mais donc, il n'en dit qu'un mot rapide. Et il dit qu'il y a donc un autre art que celui qui produit la catharsis en dernière analyse utile à la politique, et cet autre art se pratique dans les comets, je vous donne le texte grec, terme dont il dit lui-même, Aristote, que son équivalent est démos. Donc il y a un art spécifique dont il n'est pas question de fait dans la poétique, dont nous ne savons pas s'il est utile à la politique, par conséquent, en tout cas, il est probable que dans cet art-là, la catharsis ne se déploie pas comme elle se déploie dans la tragédie, l'art dont il est question dans la poétique et qui est en dernière analyse utile à la politique. Donc cet art-là, dont nous ne savons pas grand-chose, se pratique dans les comets, c'est-à-dire dans les quartiers, démos, puisque Aristote nous dit lui-même « comet est une autre façon de dire démos ». Je peux ainsi, moi, qui lis tout ça, je peux ainsi dire qu'il fait état à sa façon, Aristote, rapidement, par allusion au passage, il fait état à sa façon de mœurs comiques, hein, puisque comet, comédie, comique, c'est l'origine de comet. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la comédie, littéralement, c'est l'art des comets, dont nous ne savons pas grand-chose, en tout cas qui n'a pas été théorisé comme l'art pas des comets, hein, qui n'est pas l'art des comets, qui est l'art justement de la police, pour Aristote. Et cet art des comets, bah, littéralement, vous laissez la langue jouer, c'est la comédie. Voilà, c'est comique, c'est le comique. Peut-être que dans les quartiers, on a le sens du comique. Dans les comets, on a le sens du comique. Voilà. Donc, je peux dire que Aristote fait état à sa façon de mœurs comiques au sens d'abord, non pas où il y aurait là quelque chose de risible et de ridicule, mais au sens plutôt de quelque chose qui n'aurait pas l'enjeu de la tragédie, ou au sens, si vous préférez, de quelque chose qui n'aurait pas l'enjeu de la mise en scène, qui n'aurait pas pour enjeu la mise en scène de ce qui affecte les esprits dans les quartiers. Étant donné qu'il n'en est pas dit davantage de fait, peut-être Aristote a-t-il écrit un texte encore une fois, mais nous ne l'avons pas, étant donné qu'il ne nous en est pas dit davantage au bout du compte, je peux au minimum supposer que pour un observateur comme Aristote, les œuvres comiques n'ont pas la structure et les caractéristiques des tragédies qui, elles, sont longuement décrites dans la poétique. Les éléments, par conséquent, des œuvres comiques, des œuvres qui se développent particulièrement dans les comets, les éléments des œuvres comiques ne sont pas organisés selon l'ordre. Aristote dit dans le texte grec « syntaxe », littéralement. Hein, ces œuvres-là ne sont pas organisées selon la syntaxe du mythe, puisque la syntaxe du mythe, c'est ça, la tragédie. Mais la tragédie n'est pas l'art des comètes, je suis clair. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est que dans les quartiers, ce qui circule, si j'ose dire, dans les quartiers, ce qu'on se dit dans les quartiers, ou l'art des quartiers, des faubourgs, des bourgs, etc., des logos, c'est pas quelque chose qui fait valoir la syntaxe des mythes. Voilà. Je note de bas de page, pourquoi tout ce développement? Parce que j'ai en tête, je ne peux pas ne pas, en tout cas moi, ne pas avoir en tête, le livre qu'avait écrit, je crois que c'était en 91, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, Le mythe nazi. Et donc, ça m'intéresse de savoir que... Mais c'est mineur, hein, puisqu'on n'a pas de texte. En tout cas, le grand texte d'Aristote ne nous en parle pas longuement. Mais on peut supposer, par la petite remarque, donc, qu'il y a là un art, quand même un art, mais qui ne fait pas de l'ordre du mythe, de la syntaxe du mythe, son affaire. Et cet art est celui qui circule ou qui se présente peu ou prou dans les comets, les quartiers, les faubourgs, etc. En conséquence, je dirais, hein, je poursuis le raisonnement au-delà du texte, mais en même temps, je pense dans l'esprit du texte, je dirais que les œuvres comiques procèdent moins par composition, puisque ce mot d'origine latine traduit littéralement celui de syntaxe. Ces œuvres comiques, leur structure, si vous voulez, c'est moins du registre de la composition que, je dirais, de l'association. Voilà. Peut-être que la structure, je sais pas, des œuvres, des types de discours, du parler peut-être d'une certaine manière, qui a lieu dans les comets, c'est l'art d'associer des idées les unes aux autres. Et non pas de composer les idées. Je pourrais, même en tenant compte de phrases qui sont pas consacrées à ce sujet, mais qui sont consacrées à la tragédie, par inversion, dans plusieurs passages de la poétique, soutenir la lecture que je fais là. L'opposition que je vous propose entre ce qui est de l'ordre de la composition, de la syntaxe, et donc du mythe, et une autre façon d'associer des éléments poétiques, qui, évidemment, produisent un autre effet, pas la catharsis, etc., on peut supposer. Bon. Dans le foyer du peuple, par conséquent, dans les quartiers de l'Oïkos, les pensées ne sont pas organisées mythiquement. Ainsi, le mythe ne nous a-t-il pas été donné, de fait, encore une fois, Et même si ce fait demeure davantage dans le registre du pensable que du tout à fait pensé, ainsi le mythe ne nous a-t-il pas été donné comme étant la forme spontanée du langage populaire ? Ce n'est pas spontanément, mais en raison de toute une institution et de tout un art, que le mythe peut être adressé au peuple, sinon même, le cas échéant, devenir populaire. Alors, je suis obligé de faire une précision, parce que, évidemment, ce que j'appelle là, pour aller vite, le peuple, disons, les existants communs, les communs dans le foyer, dans leur foyer, c'est-à-dire les quartiers, les faubourgs, etc., si le mythe les concerne, je dirais, ça n'est pas en tant qu'ils sont là, des communs dans les quartiers, etc., c'est en tant qu'il leur est adressé selon un art, tout particulier, un art aussi bien de la composition que de la présentation, voilà, et qui finit par faire que, d'une certaine manière, cet art non populaire dans son principe, parce que mythique, etc., etc., est quand même adressé au peuple. J'interprète là, de façon allusive, une autre remarque d'Aristote dans la Poétique qui signifie que le mythe est consécutif à un travail d'écriture par quoi le poète reformule ce qu'il peut entendre au hasard de ses incursions dans l'oïkos. Je crois, si je me souviens bien, je n'ai pas mis sur mes notes, que c'est au chapitre 13 de la Poétique qu'on peut lire ça. Bref, les amateurs de comédie ne sont pas des esprits tragiques. Ce sont plutôt, et même d'abord, des esprits qui n'organisent pas leur vision des affaires humaines selon l'ordre syntaxique qui sied si bien aux tragédies. Hein ? On peut dire, l'esprit populaire n'est pas spontanément tragique. Voilà. Il n'organise pas sa vision des affaires humaines selon l'ordre syntaxique des tragédies. C'est seulement si on lui adresse, moyennant tout un art, des syntaxes, des compositions, etc., du mythe, que finalement, il est concerné, ou il peut se trouver concerné par ça. Ils sont plutôt, ces esprits, les amateurs de comédie, ils sont plutôt, et même d'abord, je dirais, alors j'ai cherché le mot qui me convenait le mieux, et celui que j'ai trouvé, c'est prime sautier. Je dirais que les amateurs de comédie, donc les communs dans leur foyer au pluriel, sont des esprits non pas tragiques, mais prime sautiers. Ça veut dire qu'ils ne refusent pas les sauts d'idées. Et ils ne sont pas syntaxiques et logiques, comme le veut celui qui parle au nom de l'art qui convient à la cité. Celui qui parle au nom de l'art qui convient à la cité dit, il faut que, c'est dans le texte d'Aristote, hein, il y a une logique aux tragédies. Mais les esprits comiques, par hypothèse donc les habitants des quartiers, des comets, etc., ils sont prime sautiers. Prime sautier, ça veut dire qu'ils ne refusent pas les sauts d'idées. Prime sautier, ça nomme littéralement un prime saut, une impulsion, une spontanéité, et ça évoque finalement un parler et un agir dans le premier mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'être prime sautier ? C'est parler ou agir dans le premier mouvement, sans réfléchir, si j'ose dire. C'est toute une mentalité bricoleuse qui se trouve là définie. J'utilise le mot bricolage, hein, j'ai dit prime sautier, mentalité prime sautière ou bricoleuse. J'utilise le mot bricoleur en pensant d'une part à sa signification intrinsèque. La bricole, c'est d'abord une catapulte. Et les valeurs associées au terme bricole sont, avant l'instabilité, le ricochet, le zigzag, la capacité d'aller a priori adroitement par-ci, par-là. Donc qu'est-ce que... Je ne sais pas s'il faut que je simplifie mon discours, je me méfie des simplifications, mais disons, qu'est-ce qu'un esprit, qu'est-ce que l'esprit populaire en soi, quand il n'est pas convoqué par des structures mythiques ? Voilà, il est prime sautier, bricoleur, Il pense par ricochet, par zigzag, par aller et venu, a priori adroitement. C'est ça, le bricoleur travaille adroitement, par-ci, par-là. Voilà. Il n'est pas stabilisé, si vous voulez, pas focalisé. Voilà. Donc j'utilise le mot bricoleur, Prime Sautier, bricoleur, j'utilise le mot bricoleur en pensant donc d'une part à la signification intrinsèque de la bricole que je viens de vous dire, et d'autre part évidemment en renvoyant plus près de nous cette fois aux travaux de Michel de Certeau, sur, qui date des années je crois 90, hein, si je me souviens bien, le commun des habitants, la population foncière de l'espace économique sont bricoleurs, tacticiens ou malins. Pour reprendre peut-être les mots de Michel de Certeau, j'ajouterai pour ma part industrieux. Je pense que ces mots ont quelque chose qui vont ensemble. Bricoleur, tacticien, malin, Prime Sautier, industrieux. Donc j'ajoute moi industrieux à la liste. Tout cela veut dire, prenez toute cette chaîne de mots, tout cela veut dire pas stratège. C'est pourquoi je fais la référence à Michel de Certeau, puisqu'il y a l'opposition stratégie-tactique chez lui, les esprits tacticiens et les esprits stratèges. Bah, les esprits comiques, les esprits qui sont dans le registre de la comète, qui sont donc Prime Sautier, bricoleur, tacticien, malin, industrieux, tout ça veut dire qu'ils ne sont pas stratèges. Ou ça veut dire... Je pense que vous comprendrez que c'est une façon indirecte de définir le mot stratège, où ça veut dire qu'ils sont capables de s'activer, ces esprits-là, sans qu'il y ait de but à leur activité. Le stratège est celui qui ne fait rien sans but. Ceux dont j'essaye de parler sont des esprits qui sont capables de s'activer sans but. Voilà ce que nous avons à penser, je crois, que le plus commun, que même peut-être la condition qui rend le commun possible, c'est de n'être pas stratège. C'est-à-dire de n'avoir pas de but pour les autres. Réciproquement, avoir un but pour un autre que soi, c'est peut-être, et c'est même, je dirais, j'essaye de soutenir, disons, voilà, on pourra discuter, bien entendu. Réciproquement, avoir un but pour un autre que soi, c'est accepter cet autre du mouvement commun, de la mobilité commune. C'est, en poussant, on peut dire, c'est décider pour lui. Ce qui est la situation du mineur en droit, par exemple, qui n'est pas émancipé en droit. C'est qu'il y a quelqu'un qui décide pour lui. Et du coup, ça accepte celui-là d'être dans, si j'ose dire, le lot de la mobilité commune de l'esprit Prime Sautier, etc. Bon. Et d'être pris dans une stratégie. Voilà, peu ou prou. Alors, comme c'est ainsi que fait le despote, et comme il est vrai, le despotisme est fréquent, il nous faut par la même occasion accepter de considérer qu'une situation n'est pas commune en raison de sa fréquence. Cette distinction, c'est une parenthèse. Hein. Cette distinction permet une fois de plus de faire la différence entre un peuple vif, alerte et une masse. Hein. Une masse, c'est dans laquelle il est fréquent de rencontrer des gens pour lesquels la décision, une décision est prise malgré eux, en dehors d'eux. Voilà. Et puis en même temps, une masse, même si c'est fréquent, c'est pas spécialement Prime Sautier, etc., etc. Voilà. Donc j'ai indirectement essayé de dresser des listes de caractères, si vous voulez, qui permettraient de distinguer un peuple vif, alerte, mobile dans les comets, et quelque chose qui serait de l'ordre d'un peuple mobilisé, et qu'on peut peut-être appeler une masse, un peuple constitué en masse. Alors il peut être constitué en masse par toutes sortes de choses, il est interpellé, par l'économique, par le politique, par le despotisme économique, par le pouvoir politique, etc. Il peut l'être aussi par un certain type de production artistique, hein, qui le met dans le mythe. Quelque chose de ce type-là. Au-delà, Et c'est où je voudrais en venir. La question se pose de savoir si l'esprit, dans sa façon commune, comique et bricoleuse d'être en alerte, peut convenir à ce que nous appelons communauté. Donc c'est ça ma question pour ce soir. Hein, si j'ai à peu près réussi à vous donner la description, disons, de l'esprit commun dans ces foyers, bricoleurs, etc., comiques, alerte, cette façon d'être. Est-ce que cette façon, mettons pour parler un langage plus habituel, populaire, d'être comique, bricoleur, pripsautier, etc., convient à ce que nous appelons communauté? Quand nous pensons communauté, est-ce que nous pensons à cette vivacité que je viens d'essayer de décrire depuis au moins un quart d'heure? Je crois que la question se pose parce qu'il n'est nullement évident qu'une communauté soit possible qui n'aurait pas de but ou de projet quant aux autres et pour les autres. Or, les autres, dans le cas de ce que nous appelons communauté, ce ne sont pas les étrangers, c'est-à-dire ceux pour lesquels la communauté en tant que telle a, comment dire, défini des buts pour eux. La communauté définit des buts pour ceux qui sont les habitants de cette communauté. Et donc, si elle définit des buts pour, elle est stratège forcément par rapport à eux, hein, si mon raisonnement est juste. Les autres dont la communauté s'occupe, pour laquelle elle est stratège, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont plutôt d'abord ceux pour qui la communauté prétend qu'elle est. La communauté prétend qu'elle est, bon, je veux dire, lâcher ce mot que j'ai en tête depuis 5 minutes et que je n'ose pas dire, la communauté prétend qu'elle est pour nous. Voilà. Forcément, inévitablement, toute communauté prétend qu'elle est pour un peuple. Voilà. Elle est pour un peuple et elle définit des buts pour un peuple, pour apprendre cette expression généreuse. Hein, mais je fais ça pour toi, je fais ça pour vous, hein, etc. Mais le fait est, voilà. Donc, il est probablement pas possible de penser une communauté qui serait sans but quant aux autres, les autres étant en l'occurrence non pas des étrangers, mais l'ensemble de ceux pour qui la communauté prétend qu'elle est. Car en définitive, la communauté, toute communauté, pense et parle pour le commun ou à sa place. Et cela, je crois, aux deux sens que cette expression, que ces expressions peuvent avoir en français. À la fois représentant en droit le commun, la communauté répond en son nom, à lui, et a priori pour son bien. Elle répond des Français, par exemple. La communauté France répond pour le bien des Français, a priori. Voilà. Donc, la communauté pense et parle pour le commun ou à sa place, aux deux sens de l'expression en français. À la fois, elle répond en son nom à lui, comme un sujet juridiquement majeur peut faire à l'égard d'un sujet juridiquement mineur. Et puis, elle répond, elle parle pour le commun ou à sa place, au sens cette fois plus littéral, plus matériel, où on peut dire que la communauté se réserve une part au moins de l'espace commun. Je voudrais attirer votre attention, je vais glisser des exemples dans les phrases que je vais prononcer dans les minutes qui viennent. Hein. Que la communauté, il n'y a pas de communauté, je propose cette thèse à la discussion ce soir, il n'y a pas de communauté qui ne se réserve une part de l'espace commun. J'aime bien qu'il serait. Alors, j'ai lu des livres très savants d'historiens de la dernière génération, Paulin Ismar, par exemple, sur la naissance de la cité dans la Grèce antique. Et quand je dis cette phrase, il n'y a pas de communauté qui ne se réserve une part d'espace, quand même qu'initialement, dans les poèmes d'Homère, la communauté se réserve une part du butin. Et c'est là que naît la cité, dans la façon. Dans les surplus de chasse, vous avez, j'en sais rien, 11 chasseurs, on ramène 17 bêtes, il y en a donc 6 en trop, à qui elles appartiennent, si chacun prend sa part, une bête, et les 6, etc., la communauté se les réserve. De même qu'elle va ensuite architecturalement se réserver une part de l'espace, la police. La police stricto sensu, la cité, l'espace de la cité. Donc j'attire votre attention sur ça. La communauté, est-ce qu'il répond au nom des autres, de nous tous, enfin de nous, d'un certain nous en tout cas, et elle est aussi ce qui se réserve une part de l'espace commun. Je pense ici à ce qui aura d'abord signalé et signale du reste encore bien souvent la communauté. Ce qui signale la communauté, ce ne sont pas des habitations banales, ce ne sont pas des demeures, au sens que j'ai donné à ce mot dans ce séminaire depuis quelques semaines. Non, ce sont des temples ou des palais. Ce qui manifeste la communauté, ce ne sont pas des demeures, ce ne sont pas des habitations banales. Banales, c'est banc. Hein, c'est les quartiers, c'est les faubourgs, c'est les bourgs, etc. Ce ne sont pas des habitations banales, ce ne sont pas des demeures qui manifestent la communauté, ce sont des temples ou des palais, tous bâtiments dans lesquels, je vous le signale au passage, s'affairent des personnels qui ne sont pas seulement majestueux, mais qui sont bel et bien, comme nous venons de le voir, des majeurs en droit. Dans les palais s'affairent des personnes majestueuses, majeures en droit, c'est-à-dire ce sont des grands, les majeurs. Ce sont des grands, ce sont des grandis, ce sont des adultes. Adultes, je crois que, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que adulte, l'origine latine du mot renvoie à ce mot, ce sens, cette valeur sémantique d'être grandi, d'avoir été grandi, d'être grand. Ceux qui fréquentent les palais, donc les bâtiments de la cité ou de la communauté, sont majeurs en droit, ce sont des grands, ce sont des grandis, ce sont des adultes, ce ne sont pas des mineurs, ce ne sont pas des infants dans leur rapport au droit. Hein, ce sont au contraire ceux qui disent le droit. Voilà. Mais peut-être que ceux qui fréquentent pas les palais, ils disent pas le droit. Hein. Ils sont concernés par le droit, mais sans le dire. Et quand même, les uns et les autres, hein, ceux des demeures et ceux des palais. La notion qui pourrait résumer, à mon avis, toute cette affaire est celle de lieu-tenance. Le tenant-lieu, le lieu-tenant, etc. J'aime beaucoup ça, jouer sur ce mot-là. Il me semble que cette notion de lieu-tenance pourrait résumer tout ce que j'essaye de vous dire. Les personnels qui occupent les temples et les palais sont les lieutenants de la communauté, en ce sens qu'ils en sont la manifestation locale, mais elle-même tient lieu des personnes qui vivent, habitent et existent comme elles peuvent, sans majesté en effet, dans le commun des espaces. Donc on a toute une série de lieutenances. Vous avez des gens qui tiennent lieu de la communauté, les personnels qui habitent les palais, etc., qui fréquentent les palais, qui disent le droit, bon, bref. Donc ces gens tiennent lieu de la communauté, et la communauté elle-même tient lieu, au moins pour une part, au moins dans une part d'espace, des personnes qui vivent, habitent et existent comme elles peuvent, sans majesté, dans le commun des espaces. En principe, alors c'est la thèse de ce soir, en principe, dans son idéal, évidemment, pas dans la réalité. Je dis évidemment parce que moi, je sais ce que je vais dire. Voilà. Donc, c'est évident par rapport à ce que je veux dire. Excusez-moi. En principe, dans son idéal, la notion de politique est en porte-à-faux avec tout ce que je viens d'appeler lieutenance. Et de même qu'il y a 15 jours, j'avais demandé s'il était possible de mettre de la lumière dans cet espace, je refais cette demande ce soir. Merci beaucoup. En principe, idéalement, par conséquent, hein, je reprends puisque je... En principe, dans son idéal, la notion de politique est en porte-à-faux avec tout ce que je viens d'appeler la lieutenance. En principe, idéalement, la politique n'a pas besoin de temples et de palais. Et idéalement toujours... Alors, vous traduisez... Vous comprenez que je suis en train de dire, dans les faits, la politique n'est pas en porte-à-faux avec la lieutenance. Dans les faits, quand elle n'est pas idéale, la politique a besoin de temples et de palais. C'est là même qu'elle se joue. Bon, etc., etc. Hein. Idéalement toujours, en tout cas poussé jusqu'à l'idéal démocratique, la politique ne tient pas les communs pour des mineurs. En principe, idéalement, la politique ne tient pas les communs pour des mineurs. Et par conséquent, l'idée de la politique, c'est que ce soit les mineurs qui disent le droit. Enfin, ceux qui sont mineurs quand la communauté tient lieu de la politique, hein, quand la communauté vient en lieutenance de la politique, et que c'est elle qui dit le droit, alors les autres, nous sommes des mineurs, nous ne disons pas le droit. Mais idéalement, surtout quand l'idéal de la politique est poussé jusqu'à l'idéal démocratique, les communs ne sont pas tenus pour des mineurs en droit, c'est eux qui disent le droit. Enfin, c'est ceux qui sont mineurs dans l'autre régime qui sont supposés pouvoir dire le droit. La notion de politique est née chez ceux qui ont considéré l'humanité comme ayant à se gouverner. Se gouverner, ça veut dire littéralement se diriger ou s'orienter. Hein, trouver une gouverne, gouvernail, etc. C'est le premier sens. L'idée de politique, la notion de politique est née chez ceux qui ont considéré que l'humanité avait à se gouverner, entendez que ça veut dire que l'humanité pouvait se gouverner, c'était même, elle était vouée à ça, et non pas à être gouvernée. L'idée de politique n'est pas née chez ceux qui avaient, comment dire ça, je vais utiliser ces mots dans quelques minutes, une idée transcendante de la gouverne des humains. C'est-à-dire, par exemple, si on dit il faut faire ceci parce que un dieu l'a voulu. Voilà. La justification est transcendante. Voilà. L'idée de politique est née en même temps que la gouverne de l'humanité devenait une affaire immanente à l'humanité. Que s'est construite une idée de ce que c'est qu'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'être humain ? C'est un être qui n'est pas gouverné, mais qui se gouverne. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble d'humains ? C'est un ensemble qui n'est pas gouverné, mais qui se gouverne. Cette idée-là est née à un moment donné dans l'histoire, et elle a fait naître l'idée de la politique, elle-même poussée jusqu'à l'idée de démocratie. À savoir, il n'y a pas de mineur en droit, si on pousse l'idée de démocratie elle-même dans son idéal. Donc se diriger ou s'orienter, pardon, se gouverner, ça veut dire se diriger ou s'orienter, mais s'il y a à se diriger ou à s'orienter, c'est précisément parce qu'il y a mouvement ou mobilité des uns et des autres, et que la direction, au sens de l'orientation de ce mouvement global des uns et des autres, la direction de toute cette mobilité n'est pas définie d'avance ou extérieurement, c'est pourquoi il faut la gouverner intérieurement, hein, parce qu'elle n'est pas définie. C'est encore l'affaire du défaut d'origine. Il n'y a pas de programme génétique qui nous fait aller dans ce sens plutôt que dans un autre. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on bouge. Je me suis tué, si j'ose dire, à le dire dans les séances précédentes. Le commun de l'existence, c'est la mobilité. Nous sommes mobiles, mais dans tous les sens. Donc, il n'y a pas d'orientation au singulier particulière qui ressort de ça. L'idée de la politique est née pour dire quelle est l'orientation d'un ensemble d'humains qui s'orientent dans tous les sens si on les laisse chacun à son cours. Voilà. J'espère que je suis à peu près clair. Donc, l'idée de la politique est née du fait que le mouvement ou la mobilité, l'absence de direction qui résulte du mouvement et de la mobilité de tous implique qu'il n'y a pas de direction définie d'avance ou extérieurement depuis, par conséquent, une transcendance. S'il y a à se diriger ou à s'orienter, c'est que l'orientation n'est pas prédéfinie de manière externe au mouvement qui anime l'ensemble des existences. Sont en jeu dans toute cette affaire, des conduites existentielles qui inventent et modifient les capacités opérationnelles, les rapports au monde et les conditions de vie, mais sans prévoir une ligne de modification. Voilà. Nous ne cessons de mettre au monde des modifications, ça c'est l'existence, mais toutes ces modifications qui sont mises au monde par les uns et par les autres, une invention ici, une autre là, etc., ne prévoient pas de lignes de modification, bien qu'elles aient pour conséquence de modifier les conditions d'existence. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de transcendance à nos orientations. La métaphore qui rend le mieux compte de la condition initiale de la politique que je viens d'essayer de vous dire, ce n'est pas celle qui se trouve dans le politique de Platon, qui est la métaphore bien connue du troupeau qui aurait besoin d'un berger, parce qu'il serait incapable de se guider lui-même. Par ailleurs, il serait moutonnier, c'est-à-dire il serait spontanément une masse. Alors que j'essaye de vous proposer de penser à tout l'inverse de ça. Mais la métaphore qui rend le mieux compte de la condition initiale de la politique, pas de la politique telle qu'elle se joue peut-être effectivement, hein, mais de la condition initiale de la politique, son idéal, ça n'est pas la métaphore du troupeau qui aurait besoin d'un berger pour le gouverner extérieurement à lui. Hein, le berger est extérieur au troupeau, donc la métaphore du troupeau et du berger, au fond on pourrait dire de la masse et du chef, hein, elle extériorise la politique, elle est donc contradictoire avec l'idée même de politique telle que j'essaye de vous la définir depuis quelques minutes. Non, la métaphore qui rend le mieux compte de la situation initiale de la politique, c'est la métaphore maritime qui se trouve non seulement chez Xénophon et chez Aristote, c'est très clair, c'est prise. Bon, j'ai pas amené les textes pour pas allonger la séance, mais pas difficile de vérifier. La métaphore qui rend le mieux compte de la situation initiale de la politique, c'est la métaphore maritime qui se trouve non seulement chez Xénophon et chez Aristote, mais qui encore se trouve dans le mot même de gouvernement. Hein, puisque ce mot, je vous l'ai dit tout à l'heure, renvoie premièrement à gouvernail, c'est-à-dire un navire qu'il faut orienter. Le mot gouvernement, donc, est de même famille que gouvernail. Imaginez par conséquent l'humanité comme embarquée sur une mer dont elle ne voit pas les limites. Sur une mer embarquée au niveau d'une barque, on ne voit pas les limites, on ne voit pas de paysage, au fond. Il n'y a pas de chemin a priori visible sur une telle mer. Il n'y a pas de chemin déjà tracé. Et peut-être même le voyage, le déplacement de l'embarcation sont-ils comme une dérive sans fin ni but. Alors, ça serait intéressant, j'imaginais en écrivant ça l'Odyssée sans l'île d'Ithaque, hein, sans patrie. Et Ulysse ne cesse de dériver. Sur la mer, et il va nulle part, parce qu'il n'y a pas de patrie. Imaginons ça. Imaginons que c'est ça l'existence. Alors je ne dis pas que c'est facile d'exister, mais au fond c'est ça. Nous, l'humanité n'a cessé de dériver, ne cesse peut-être toujours pas de dériver. Elle est comme sur une mer, au niveau d'une embarcation, il n'y a pas de chemin. Et peut-être il n'y a pas de port au bout. Voilà. Peut-être des haltes. Peut-être le déplacement sont-ils sur cette mer, nos déplacements existentiels sont-ils sur cette mer comme une dérive sans fin ni but. Sans fin ni but. Il se peut évidemment que fin et but soient présents dans les esprits au titre d'un espoir, celui précisément de trouver une voie. Peut-être que c'est ça l'existence, c'est une dérive sans fin ni but dans laquelle on espère qu'il y ait une fin et un but, c'est-à-dire de trouver une voie. Il n'y en a pas sur la mer, mais trouver une voie, trouver une issue, trouver une sortie, c'est-à-dire parvenir à un port qui reposerait de la tâche d'avoir à faire route et à décider de cette route tout en y vivant sans cesse. Ça, c'est quand même fatigant. Voilà. Et alors, on se dit, ben, s'il y avait un port, une issue, etc., si on pouvait arrêter d'exister en réalité. Hein? Voilà. Peut-être que nous sommes des êtres un peu manquants de simplicité de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils n'assumons pas notre situation d'existant. Voilà. Pareil port, plus ou moins espéré, peut apparaître sous l'allure d'une sorte de loisir ou d'un repos, je dirais un repos enfin, ou à la fin, ou comme fin. Hein, enfin du repos. C'est-à-dire, en fait, à la fin de l'existence, le repos, ou peut-être pour gradation supplémentaire, chercher le repos comme fin, pour mettre fin à la dérive incessante, etc., etc. Je note, si vous voulez, au passage, ou je vous suggère de noter au passage, que le mot que je viens de prononcer, le loisir, hein, peut-être que le port espéré peut apparaître comme un endroit de repos ou de loisir. Je note que ce mot de loisir est peut-être celui qui, par son nom même, nous donne accès au caractère sentimentalement positif de l'émancipation. Si les humains revendiquent... qu'est-ce que ça veut dire émanciper ? On peut dire sortir de sa condition. Mais si la condition de l'humanité, c'est la dérive sans fin sur la mer, l'embarcation, etc., tout ce que je viens de vous dire, émanciper, ça veut dire mettre fin à la dérive. En fait, ça veut dire mettre fin à l'existence. Alors, si l'émancipation se présente à nous sentimentalement sous une allure positive, c'est peut-être précisément parce que, sous le nom d'émancipation, nous nous promettons toujours, nous espérons toujours un port qui sera un loisir quant à l'existence, un repos quant à l'existence. Parce qu'avec l'émancipation, nous nous promettons, ce que nous nous promettons, c'est à chaque fois d'en finir avec une certaine situation. Où cela revient au même, ce que nous pensons, c'est que l'émancipation nous indique une fin, un état de repos pour l'action. Mais les choses se passent alors comme si, plus, il me semble, ce qu'on a vu peut-être à la deuxième séance quand je parlais de l'échouage du mouvement d'émancipation des Noirs américains dans la seconde moitié du 19e siècle, que ce mouvement a échoué. Les choses se passent en fait comme si, plutôt que de nous émanciper pour exister, nous existions, nous faisions provisoirement route pour être au moins quelque temps émancipés d'avoir à faire route. Peut-être que l'épreuve, la façon dont nous éprouvons l'émancipation, quand on sera émancipé, ça sera fini de cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes. L'histoire, par exemple, des Noirs émancipés aux États-Unis a montré que leur existence n'était pas finie avec l'émancipation. Mais ils avaient espéré ça. Peut-être qu'ils avaient espéré d'en finir avec la situation existentielle. Et en fait, on n'en finit jamais. Voilà. Que l'émancipation est comme une ligne d'horizon, hein, qui recule à chaque fois qu'on fait un pas dans sa direction. Ça va toujours? Alors, Xénophon, conscient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la métaphore dont je suis en train de faire jouer les éléments, parlait à son sujet d'une économie. Il nommait par ce mot les dispositions utiles à la navigation, non pas seulement le placement et la part de responsabilité des personnes affectées au pilotage, mais aussi et même d'abord des bons endroits où mettre les instruments utiles à la navigation. Nous pouvons aussi, pour notre part, nous interroger sur la pertinence même de ces utilités. Nous pouvons, autrement dit, penser que les instruments de navigation dont la barque elle-même fait en dernière analyse partie sont plus ou moins convenants et plus ou moins déterminants. Toute cette mise en évidence, j'espère en tout cas, de la dimension métaphorique de la gouverne a pour moi un enjeu, au moins un, théorique, celui de poser une question. que des livres aussi estimables que celui de Catherine Malabou, dont j'ai plusieurs fois parlé, auquel j'ai plusieurs fois référence, au voleur, enfin sur son livre sur, on peut dire sur l'anarchie, ou plutôt sur les raisons pour lesquelles l'anarchie n'aura pas été suffisamment impliquée au sein du discours philosophique. Donc moi, je voudrais, avec toute cette méditation sur la dimension métaphorique de la gouverne, poser une question que des livres comme celui de Catherine Malabou ignorent, je crois, parce qu'ils posent sans discussion une équivalence entre gouvernement et commandement. Or, si la politique est bien ce qui doit régler la question du commandement et de son partage, pour être plus précis, je devrais dire, si la politique idéale, en raison du principe qui soutient son idéalité, s'attaque toujours peu ou prou au temple et au palais, si elle ne se satisfait jamais parfaitement, la politique idéale, du clivage entre le commun et la communauté, si elle doit en principe réduire le pouvoir de la communauté sur le commun, c'est ça la politique idéale. C'est pour ça que je dis qu'elle attaque, idéalement la politique attaque les temples et les palais, puisque idéalement la politique affirme le principe d'immanence de la gouverne. Et donc, idéalement, la politique attaque, je répète ma formule, idéalement, la politique attaque le pouvoir de la communauté sur le commun. Si une communauté prend pouvoir sur le commun, c'est-à-dire devient majeure, en droit, dit le droit, etc., s'il y a des personnels spécifiques qui parlent au nom de, pour les autres, etc., alors la politique consiste à attaquer ça. La politique idéale consiste à attaquer ça, à réduire le pouvoir de la communauté sur le commun. C'est-à-dire, je reviendrai sur ce « c'est-à-dire » la prochaine fois, assurer la sûreté du commun. La politique idéale assure la sûreté, pas la sécurité, je repréciserai ça la prochaine fois, mais la sûreté du commun. C'est-à-dire, elle le met en sûreté contre ce qui, dans une certaine mesure, le minore, et ce qui minore le commun, paradoxalement, c'est la communauté qui prend la place du commun, le lieutenant. Donc s'il y a tout ça, si la politique idéale, c'est tout ce que je viens d'essayer de rappeler, il n'en reste pas moins que la politique s'effectue toujours selon ou depuis une certaine embarcation. C'est-à-dire, la politique est toujours embarquée. Même la politique idéale, elle est embarquée. Elle n'est que embarcation. Il nous faut donc chercher ce qui toujours embarque la politique et la rend, en un sens, toujours seconde. Elle s'effectue, la politique, même idéale, elle s'effectue, elle ne peut que s'effectuer dans un milieu qui la précède, où jouent des influences, par hypothèse, à elle immanente. Idéalement, la politique ne doit pas transcender ses influences. La politique se joue depuis, enfin, ce qui influe sur elle, et qu'elle doit, et, comment dire, dans l'idéal, ce qui influe sur la politique devrait être immanent à la politique, ou la politique idéale consisterait à ne pas s'extérioriser par rapport à ce qui influe sur elle. À ceux qui peuvent, à ceux-là et à ceux qui peuvent influer sur elle. Idéalement, la politique ne doit pas transcender les influences qui la concernent, ce qu'elle fait pourtant, de fait, non idéalement par conséquent, quand, commandée par la raison d'État, par la raison toujours supposée supérieure de l'État, elle s'excède. Quand la politique est commandée, non pas lorsqu'elle est immanente à ceux au pluriel, je dirais, qui sont fondés à influer sur elle, mais qu'elle se laisse commander par la raison supérieure de l'État, alors elle s'excède. Elle excède sa situation idéale. Idéalement, et c'est sa tension essentielle, la politique doit faire avec ce que je viens d'appeler influence. Alors de quoi s'agit-il avec ces influences ? De ce qui travaille le commun. La politique est embarquée par des influences, si j'ose dire, si j'ose cette façon de présenter les choses, qui sont elles-mêmes définissables comme étant ce qui travaille, je dis ça comme ça, ce qui travaille le commun. Les influences dont j'essaye de parler sont faites ou procèdent des dispositions hétérogènes avec ou parmi lesquelles vivent et existent les communs. La politique se forme à partir d'influences, influencées, pas dépassées, pas commandées, hein, et elles-mêmes pas extérieures à ça, mais en raison d'influences qui sont en fait tout ce qui travaille le commun. Tout ce qui travaille le commun, c'est ça qui influe sur la politique, pour le dire simplement. Voilà. Tout ce qui travaille le commun, c'est ce qui influe sur, entre parenthèses, ce qui influe sur la politique ou ce qui influe la politique, si j'ose dire les choses comme ça. Et qu'est-ce que c'est ça qui travaille le commun ? Réponse, alors je choisis le vocabulaire, vous allez voir, pas complètement par hasard, ce sont des dispositions hétérogènes avec ou parmi lesquelles vivent et existent les communs. En fait, les communs, en tant que ce sont des existants qui prime sautier, bricoleur, industrieux, etc., qu'il n'y a pas deux vies qui soient tout à fait identiques, etc., c'est hétérogène. La production existentielle est hétérogène. Hein, c'est-à-dire, on s'entend bien sur le mot hétéros, et ça engendre de la différence. Voilà. Le commun vif alerte, il est hétérogène. Et il pose dans le monde, il ne cesse de poser dans le monde des choses qui sont hétérogènes. Alors pas seulement hétéroclites, pas simplement éventuellement opposées les unes aux autres, mais qui produisent elles-mêmes dans leur, par exemple, essence technique, pourquoi pas de la différence. Voilà. Les influences sont faites ou procèdent de dispositions hétérogènes avec ou parmi lesquelles vivent et existent les communs. Ces dispositions-là, je peux les dire morales, en ce sens qu'elles font les mœurs. Ce qui influe sur la politique, c'est ce qui fait les mœurs. Et ce qui fait les mœurs, ce sont des dispositions hétérogènes. Ce sont des morales hétérogènes. Et je voudrais rappeler, parce qu'en fait c'est ça que j'ai en tête, que Foucault nous a invités à penser que dans leur hétérogénéité même, ou malgré cette hétérogénéité qui ne les rend pas intégralement cohérentes, les dispositions hétérogènes pouvaient fonctionner en dispositif de pouvoir. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'elles fonctionnent inévitablement en dispositif de pouvoir. Je dis que, on pourrait parler en langage courant, alors si je ne parlais pas de langage courant, les existences, c'est un foisonnement d'initiatives. La vie, comme on dirait cette fois dans le langage courant, c'est un foisonnement, la vie humaine, c'est un foisonnement d'initiatives qui produisent des mœurs et donc une morale. Et cette production est hétérogène, c'est-à-dire nous ne sommes pas cohérents les uns avec les autres, nous allons dans tous les sens, etc. Et dans cette hétérogénéité même, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fini par penser la notion de dispositif chez Foucault. J'ai une citation pour ça, mais je ne l'ai pas amenée je l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais vous la donner la prochaine fois si vous voulez. C'est très clair, où Foucault parle bien du caractère hétérogène de ce qu'il appelle dispositif. Voilà. Et donc, dans cette hétérogénéité-là, morale, des mœurs, il est possible que ça fonctionne en dispositif de pouvoir. Et que par conséquent, avant même que la question du gouvernement commun se pose, la politique par conséquent, il y a déjà du pouvoir. Il y a déjà des dispositifs de pouvoir. Il n'y a pas que ça, puisque c'est hétérogène, mais il y en a. Dès lors, je dirais que ma thèse est double. Premièrement, le champ du pouvoir et des dispositifs. Par quoi le pouvoir s'entretient? Si je me suis expliqué clairement, je vous aurais fait penser un petit peu, j'espère, que le champ du pouvoir et des dispositifs, par quoi le pouvoir s'entretient, n'est pas a priori politique, mais économique au sens premier du mot. C'est une affaire, c'est l'affaire de tous ces instruments avec lesquels nous nous déplaçons dans notre embarcation existentielle. Voilà. Et de ce qui se passe là-dedans. Où est-ce qu'on met les instruments? Qui prend le gouvernail en main? Qui prend les rames en main? Etc. Hein. Mais ces questions, le lieu où elles s'ancrent, l'a priori de ces questions, et qui va influer ensuite sur la politique, c'est pas la politique elle-même. Ça commence pas avec la politique, ça commence avec l'économie, au sens premier du mot, c'est-à-dire le placement de tous les dispositifs de pilotage. Ça veut dire que le lieu où s'effectue le pouvoir et où ce pouvoir trouve sa consistance, la conséquence de ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire si je dis, ça commence pas, le champ du pouvoir commence pas avec la politique. C'est dur à penser, je pense, ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre tout sur le dos de la politique, finalement. Voilà. Mais si vous voulez bien réfléchir avec moi, donc je soutiens cette idée que le pouvoir ne commence pas avec la politique. Donc il commence ailleurs, hein, avec l'économie. Et donc le lieu où s'effectue le pouvoir et où il trouve sa consistance, ça n'est pas d'abord la police, la cité, ça n'est pas d'abord l'espace où la politique se manifeste, mais c'est la sphère sociale, mot que je propose pour dire, comment dire, une signification élargie de l'oïkos grec. Je suis en cela, j'extrapole en cela des façons de dire de Hannah Arendt. Donc, première thèse, le pouvoir n'est pas premièrement politique. Deuxième thèse, la dimension sociale est non en soi politique du pouvoir, non en soi politique. Je ne dis pas naturellement qu'il n'y a pas une dimension finalement politique du pouvoir, mais je dis que le pouvoir n'est pas en soi politique, il se niche dans l'hétérogénéité des dispositifs parmi lesquels les dispositifs de pouvoir sont possibles. Donc la dimension sociale et non en soi politique du pouvoir se manifeste en mœurs, en façon de se maintenir. Ça il faudrait prendre la définition des dispositifs de pouvoir chez Foucault, tout simplement. C'est ce que je fais là. Hein. Voilà. Ça se manifeste en mœurs, en façon de se maintenir et de se signifier les uns aux autres, qui prescrivent ces façons, ces mœurs, ces façons de se maintenir et de se signifier, prescrivent le commandement politique aux deux sens qui peut être donné à ce verbe de prescription, à ce mot de prescription, pardon. Il y a quelque chose qui prescrit le politique, à quoi il nous faudrait peut-être penser davantage que nous ne le faisons. Le politique est moins prescripteur. En fait, c'est ça ma thèse. Le politique n'est pas aussi prescripteur qu'on veut bien le dire. Il y a quelque chose qui le prescrit lui-même, qui est de l'ordre des mœurs, des maintiens, des façons de signifier. Voilà. Qui prescrivent le politique, donc, aux deux sens de ce verbe. D'une part, ces mœurs, ces maintiens, etc., anticipent les décisions propres au commandement politique. Et d'autre part, il se délivre substantiellement comme se délivre une ordonnance médicale. Hein, faites ceci, etc. Cette dernière phrase, de ma part, veut dire que peut s'impliquer, et que s'implique en effet, au moins pour une part, une sorte d'obéissance qui n'a pas les mêmes ressorts que l'obéissance due à la loi ou à un commandement qui aurait été politiquement décidé. Nous obéissons à des mœurs, à des maintiens, à des prescriptions, à des ordonnances avant d'obéir à des lois ou à des commandements qui seraient politiquement décidés. Alors, nous obéissons à quoi ? Alors, ce n'est pas des commandements vraiment, hein ? Ce n'est pas des lois, vraiment. C'est des mœurs, c'est des maintiens, c'est des significations. Comme on dit, je te signifie quelque chose. Hein, je signifie quelque chose à quelqu'un, je fronce les sourcils, ça veut dire, bon, c'est pas une loi. N'empêche. Voilà. Donc nous sommes, destinataires de prescriptions, d'ordonnances qui sont pas politiques, qui sont, dans un certain sens, je pourrais presque dire pré-politiques. Je sais pas si j'ai raison d'utiliser ce mot, mais bon, on verra bien dans la discussion. Et auxquels nous obéissons autrement que nous faisons quand il s'agit d'une loi ou d'un commandement politiquement décidé. Alors ça ne veut pas dire que ces mœurs, etc., auxquelles nous obéissons, sont impolitiquement décidés. Voilà. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment décidés. Ouais, faut chercher comment comprendre cette formule-là. Disons au moins, à titre d'approche de la définition que je cherche, que le mode de prescription, l'ordonnance sociale qui précède la loi politique, ou le kratein, le commandement politique, disons au moins, à titre d'approche, que le mode de prescription, l'ordonnance sociale, ne s'explicite pas comme s'explicitent des lois politiquement décidées. Et peut-être que ça ne s'explicite pas du tout, même. Je sais que c'est ça un dispositif de pouvoir. Le dispositif de pouvoir, dès lors qu'on accepte de le penser comme n'étant pas de l'ordre de la politique, peut-être que c'est un dispositif en tant que ça ne s'explicite jamais. Et peut-être aussi c'est un dispositif de pouvoir en tant que ça ne s'explicite jamais. Peut-être que le pouvoir n'est jamais clair dans ce qu'il dit. Explicite. La loi, c'est explicite quand même. Voilà. La politique explicite un certain nombre de choses. L'ordonnancement politique, quand la politique ne s'excède pas, ça explicite un certain nombre de choses. Et peut-être qu'il y a un pouvoir foncier qui, lui, n'est pas de ce registre-là, de l'explicite. Et pourtant, qui signifie. Au sens... je signifie quelque chose à quelqu'un. C'est ma deuxième thèse. Et il me semble que de là se posent au moins deux questions. Et j'en aurai fini en les énonçant. Deux questions, je crois, se posent dès lors. Première question. Je cherche où j'ai écrit. Ah oui, ça, je craignais de ne pas trouver la seconde sur mes notes. Première question. Y a-t-il une politique libéré de son implication dans les mœurs? C'est-à-dire une politique qui serait libre des opérations de pouvoir, des ordonnancements qui se développent à ce niveau-là, que j'appelle mœurs. Est-ce qu'il y a une politique libérée des mœurs qui influent sur elle? Et j'insiste, des opérations de pouvoir et des ordonnancements qui se développent là, au niveau des mœurs. Est-ce que l'idéal de la politique, autrement dit, c'est de faire valoir, expliciter les logiques de pouvoir qui se développent implicitement, voilà. Ou bien est-ce que c'est de se libérer, ou de libérer, par rapport à ces logiques-là? Est-ce qu'il y a une politique libre des opérations de pouvoir ou des ordonnancements qui se développent au niveau des mœurs? Et qu'est-ce que ça serait, cette politique-là? Alors, je ne sais pas. si cette politique existe, mais je pense que l'idéal même de la notion de politique commande que nous répondions affirmativement à la question que je pose. Et je pense qu'il faut, pour soutenir l'idéal de la politique, penser que la politique peut être libre des opérations morales. L'opération qui se déroule au niveau des mœurs. J'ajoute qu'avec la réponse que je viens de souhaiter, il devient possible de penser échapper à la tendance dont je parlais à la séance précédente, tendance qui non seulement n'a pas interdit le nazisme, mais encore n'interdit toujours pas une pratique totalitaire de la vie collective, comme nous sommes en train de devoir y penser de plus en plus. Je pense que c'est presque un impératif idéal. Enfin, un impératif idéal. C'est... Enfin, est-ce que nous soutenons cet idéal d'une politique qui pourrait être libre à l'égard des mœurs, c'est-à-dire de ce qui se développe de pouvoir dans les lieux mêmes de la moralité quotidienne, hein, qui ne sont pas des lieux politiques. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est première question. C'est même si je pense qu'il faut souhaiter une réponse positive à la question, c'est quand même une question. Et la seconde question que je vois, compte tenu de tout ce que je viens d'essayer de dire, c'est que la condition de la libération de la politique à l'égard des dispositifs moraux... Non, je vais poser... Excusez-moi, je vais lancer ma question autrement. La condition de la libération de la politique à l'égard des dispositifs moraux n'est-elle pas elle-même liée au genre des accidents existentiels dont je parlais lors d'une séance précédente et qui mettent chaque sujet pourtant fait à la morale en porte-à-faux avec le pouvoir qui se situe dans les mœurs? Est-ce que vous vous souvenez de ça, je ne sais plus quelle séance c'était, je crois que c'était la troisième, essayer de donner un peu de contenu à la notion d'existence, en tout cas le contenu que je souhaite donner à cette notion. Et je reprends ce que j'ai écrit là sur mes notes, peut-être en m'arrêtant sur le choix des mots que j'ai fait. La condition de la libération de la politique à l'égard des dispositifs moraux n'est-elle pas elle-même liée au genre des accidents existentiels? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on existe? Accidit en latin, accident, qu'il nous arrive quelque chose. S'il nous arrive jamais rien, on n'existe pas. C'est ça que j'ai essayé de dire ça, je pense, dans une séance précédente. Il faut qu'il puisse nous arriver quelque chose. C'est une phrase d'ailleurs qui vient de Lyotard, ça. Hein, il faut qu'il arrive quelque chose now, ici et maintenant. Alors, s'il n'arrive jamais rien, nous n'existons pas. Alors, pour qu'il arrive quelque chose, il faut, pour que nous puissions vivre, nous qui sommes en défaut d'origine, il faut que nous soyons munis, équipés, etc. Mais il ne faut pas que ces munitions et ces équipements soient des protections telles, des remparts tels, que plus rien puisse nous arriver. Il faut que nous puissions être accidentés. Alors, ça ne veut pas dire aller se cogner la tête contre les murs, hein, l'accident dont je parle ici, mais qu'il arrive quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà. Et c'est ça qui nous fait exister. Alors ça peut être des petites choses, hein, et qu'il arrive quelque chose, c'est bien, pas bon, mais qu'il arrive quelque chose. Voilà. Est-ce que, au fond, une politique libre de la morale est envisageable et pensable si on n'arrive pas à penser un sujet qui est sujet parce qu'il est accidenté dans la vie? Parce qu'il a eu, parce qu'il connaît, parce qu'il sait ce que c'est, un accident existentiel qui met le sujet, par ailleurs, pourtant fait à la morale. Comment dire, je m'y suis fait. Hein? Chacun d'entre nous s'est fait à la morale, dans les deux sens du terme. A été fait par la morale, hein? Nos parents nous en ont transmis, il y a des règles, etc. Puis en même temps, on s'y fait. On a appris à être sujet là-dedans, alors plus ou moins... Puisque, en fait, on n'est jamais parfaitement sujet si on est subjectivé par des règles morales, etc. On s'y fait, on s'y est fait. On s'est fabriqué à cette idée-là, en suivant cette idée-là, etc. Et peut-être il y a des moments, c'est ça que j'appelle les accidents, où tout ce à quoi on s'est fait, et alors c'est pas mis à mal, ça peut être mis de côté, inopérant, etc. Des moments de... Appelons ça une parenthèse. Je ne sais pas comment... comment le nommer, Et peut-être faut-il donc que chacun d'entre nous soit au fait de ce que c'est qu'un accident existentiel pour que la politique puisse être libérée de la morale. Voilà. Donc je repose ma question en espérant avoir été un peu clair dans l'explicitation. La condition de la libération de la politique à l'égard des dispositifs moraux n'est-elle pas elle-même liée au genre d'accident existentiel dont je viens d'essayer de reparler, qui mettent chaque sujet pourtant fait à la morale en porte-à-faux avec le pouvoir qui se situe dans les mœurs? Si oui, c'est-à-dire si nous faisons ce lien, si nous parvenons à le soutenir ce lien, ou à le comprendre, alors je dirais que la clé d'une politique qui pourrait commander sans être elle-même déjà commandée, qui est ce que cherche, je crois, Catherine Malabou dans son livre. Si oui, alors la clé d'une politique qui pourrait commander sans être elle-même déjà commandée, c'est-à-dire devancer dans son commandement, alors je pense que littéralement c'est ça l'anarchie, l'anarchie, c'est l'absence de devancement du commandement. Archie, il n'y a pas de c'est une espèce de commencement sans précédent. Voilà. Et c'est ça qu'elle cherche, je pense, Catherine Malabou, sous le nom d'anarchie, à définir et à penser. La clé d'une politique qui pourrait commander sans être elle-même déjà commandée, c'est-à-dire devancée dans ce commandement, ça serait un événement. Ça ne serait pas, pardon, un événement en soi déjà politique ou déjà civique. La clé de la libération de la politique, ça ne serait pas un événement en soi déjà politique ou déjà civique, mais plutôt, et voilà la phrase qui m'était venue très tôt dans la préparation de ce séminaire, mais plutôt une sorte de désertion morale. Peut-être que la condition d'une libération de la politique ou d'une montée en idéal de la politique et de l'idée que nous nous faisons de la politique, c'est ce que je vous propose d'appeler une désertion morale. Voilà. Et pour ça, il faut des accidents existentiels. Je ne vois pas comment penser ça autrement. Alors, vous allez me dire, comment ça peut se produire, une désertion morale? Eh bien, je vais vous répondre que je n'en sais rien. J'avais fait un séminaire qui a duré 2 ans auparavant, qui évoquait la notion de conversion au sens de Paul. Peut-être que c'est ça, qu'il faut des conversions. Alors, pas des conversions, dans le cas de Paul, ça met en jeu du transcendant, donc ça ne correspond pas à mon discours. Mais quand même, la notion de conversion m'intéresse. Peut-être qu'à un moment, il faut une conversion, c'est-à-dire qu'on arrête de marcher dans le même sens. Ou qu'on fasse quelque chose sans but. Je ne sais pas. Quelque chose sans but, c'est dur si on est stratège, etc. Mais bon, peut-être qu'il faut quelque chose de ce type-là. Peut-être qu'il faut un détachement au sens du mythe de la caverne de Platon, sauf que dans le mythe de la caverne de Platon, est-ce qu'on se détache soi-même? Est-ce qu'on est détaché? Enfin, quelque chose qui serait pensable avec ce mot-là. Le mythe de la caverne, ça ne me va pas complètement comme rire, mais la notion de détachement, se délier, le déliement, le détachement. Peut-être qu'il y a des liens dont il faut savoir se détacher, conversion, etc., pour que puisse se produire la désertion morale que, d'une certaine manière, j'appelle de mes voeux, pour que l'idée de politique demeure une idée idéale. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. De toute façon, mes notes que j'ai sous les yeux sont incomplètes. Mais enfin, je pourrais engager une discussion avec la façon dont Agamben aura lu la notion de dispositif de Foucault, dans un pessimisme que je trouve assez désolant, parce qu'au fond, ce que dit Agamben, tout en disant qu'il est bien conscient de pousser le concept de dispositif de Foucault, c'est de dire qu'il n'y a plus de dispositif que profondément subjectivant, que ne peut plus émerger un sujet qui ne serait pas déjà subjectivé par les dispositifs. Donc moi, j'essaye de soutenir... Alors j'ai fait un article qui vient d'être publié par la revue Proteus, qui essaye de faire le point sur cette affaire. Je vous y renvoie peut-être, ça ira plus vite. Et j'essaye de soutenir une idée, comment dire, je dirais optimiste. Voilà. Il est possible que même dans le contexte des opérateurs techniques qui sont autour de nous aujourd'hui et qui sont au moins partiellement des dispositifs de pouvoir, il est possible que ces dispositifs de pouvoir soient des appareils au sens où je l'entends et que par conséquent, il puisse arriver quelque chose avec eux ou à partir d'eux au sens que je viens de dire ce soir. Hein. Pas n'importe quelle arrivée, bien entendu. Voilà. En tout cas, je vous propose cette alors c'est un peu une question, une fausse question, une interro négative. Est-ce que vous ne pensez pas que... Alors, il faut répondre oui dans ces cas-là. Hein. Voilà. Ne penseriez-vous pas que ça serait bien... Alors oui, c'est très bien, ça serait très bien. Voilà. Si on réfléchissait à cette idée que l'idéal politique... ou la libération du politique à l'égard de ce qu'il a, au fond, la détermine et la retourne contre son propre idéal, ça serait que nous soyons capables, d'une manière ou d'une autre, d'opérer ce que j'appelle, un peu mystérieusement, une désertion morale. Voilà. J'ai plus rien à dire pour ce soir, sauf si vous me mettez à la question.
Moi, j'avais une petite question, mais qui est peut-être un petit peu à côté. Quand tu parlais de ces ordonnances sociales qui ne s'explicitent pas, contrairement aux lois qui s'explicitent, je me demandais si tu faisais place dans cette réflexion à la notion d'autorité, parce qu'il me semblait qu'une autorité n'est pas implicite, mais des fois elle n'a pas besoin de se dire.
Alors, est-ce que je fais une place à la notion d'autorité? Pour moi, en tout cas, l'autorité, c'est pas, en tout cas pas tout de suite, de l'ordre du pouvoir. Pour moi, autorité renvoie à auteur. Et pour moi, auteur, alors il y a plusieurs étymologies, mais ça renvoie au verbe latin augere, qui dans une de ses formes conjuguées fait auctor, auteur. Et augere, ça veut dire augmenter. Donc un auteur, c'est quelqu'un, ça serait, je dirais, un augmentateur de langage. C'est-à-dire, je fais évidemment des médiations rapides dans mon esprit, c'est quelqu'un qui parvient à dire avec une langue ce que cette langue ne disait pas déjà. Donc il ajoute un mot. Alors il ajoute pas un mot au sens, il parlerait avec des mots qui n'existent pas dans la langue. Non, il ajoute une tournure, au moins une tournure de langue qui était inédite. Donc il ajoute. Il ajoute quelque chose et ça, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être explicite. Voilà. Alors que le problème que j'ai avec la morale, ou ce que j'entends ce soir par morale et par l'implicite de la morale, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aperçu dans l'influence. L'influence morale que j'essayais de décrire ce soir est liée à quelque chose qui n'est pas manifeste. Alors, ça peut quand même se manifester par des mots. Vous dire, c'est contradictoire. Évidemment que l'ordonnance morale, elle se délivre, notamment, comme disait Foucault, c'est pas que parce que les dispositifs, c'est pas que langagier, c'est aussi du matériel associé, articulé à du langage, etc. Donc, ça se délivre quand même dans des mots, mais dans des mots qui n'ont pas l'air d'avoir des auteurs derrière eux, qui sont là comme ça, qui ont l'air d'aller de soi, qui ne sont pas discutés, qui ne sont pas discutables, qui ne sont pas présentés comme tels. Ce n'est pas vraiment des ordres au sens explicite du terme. C'est toute une série de choses que nous, je ne sais pas comment dire ça, que nous trimballons avec nous sans y penser vraiment, sans penser vraiment à leur puissance d'influence. En fait, il ne faut pas dire à leur puissance d'influence, à leur pouvoir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Ça me fait penser à un tabou. un tabou au sens où c'est quelque chose de ou un non-dit.
Oui. Oui. Alors c'est un paradoxe parce que c'est non-dit dans le dit. Voilà. La dernière fois, j'avais pris une chaîne de mots. Alors, il y en aurait bien d'autres à chercher. Il y aurait tout un travail à faire, évidemment, mais j'avais pris une chaîne de mots que j'étais allé chercher dans un communiqué lié au congrès parisien sur l'intelligence artificielle. Je ne sais plus où c'est.
Éthique, inclusif.
Voilà. Il y avait toute une... oui, c'est beaucoup plus haut dans les notes. Il y avait une série de mots... associés, enchaînés, les uns aux autres, ouverts, inclusifs, transparents, éthiques, sécurisés. Ça, c'est de la morale. Voilà. L'association de ces mots, qui se demande qu'est-ce que ouvert et inclusif viennent faire côte à côte ? C'est de quelle ouverture, de quelle inclusion, etc. Bon. Ces mots sont les mots que dire ça pullule autour de nous aujourd'hui. Ça, c'est de la morale. Voilà. Et ce que je veux dire, au fond, c'est qu'on ne peut pas imaginer le moindre idéal politique tant qu'on est pris dans ce mode langagier-là, dans ces mots-là, sans la moindre distance, etc. Il faut rompre, il faut qu'il y ait une rupture. C'est ça la désertion que j'imagine. Il faut qu'on déserte le langage par lequel se distribue. Alors, pas tous les mœurs, mais ce qui, dans les mœurs, est dispositif de pouvoir. Alors, c'est pas tout à fait le tabou au sens des anthropologues. Parce qu'en fait, c'est pas tabou. Ça passe pour tabou. On ne peut pas parler autrement qu'avec ces mots-là. Mais en réalité, si, on peut. Les humains l'ont fait pendant des siècles. Il faut être pris dans la structure du pouvoir d'aujourd'hui pour enchaîner comme des perles ces cinq mots-là. Moi, ça me sidère. Ça me sidère qu'il n'y ait pas plus de réactions. Y a beaucoup de colère politique, il y a beaucoup de revendications soi-disant politiques qui, à mon avis, ne le sont pas, parce que ça, c'est pas discuté. Même ceux qui se présenteraient comme des opposants au pouvoir politique sont en réalité, dans la mesure où ils parlent comme ça, complètement dans ce qui empêche la politique de se libérer. Voilà. Ça me sidère. Je pense que ça s'entend, non ?
Développer sur la métaphore de la navigation, après avoir parlé de la tactique chez Michel de Certeau, qui consistait à bricoler sans but différents moments de stratège. Donc, là, tu soutiens une navigation qui consisterait à être une dérive sans fin ni but, et je m'étais dit qu'il y avait un autre mot en navigation qui définissait une autre sorte de, alors pas de tactique, mais de ruse, qui associait bien ruse et stratégie d'une certaine façon, c'était louvoyer ou le louvoiement, couramment, qui désigne un esprit un peu rusé ou qui passe à droite et à gauche. Et en navigation, je crois savoir ça, qu'en fait, louvoiement, c'est l'inverse de dériver, ça consiste à, quand on est face au vent, à atteindre un but, mais justement en zigzagant pour atteindre ce but.
Oui.
C'est un terme qui peut être...
Ben donc, il n'y a pas dérive à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc, ça met fin à la dérive. Voilà. Alors, c'est toute la question. Hein. En même temps, j'espère avoir un peu quand même fait comprendre ça, c'est-à-dire en même temps qu'il y ait une fin à la dérive, c'est ce qu'on espère, parce que ça nous reposerait. Voilà, c'est le port, c'est le loisir, enfin, etc. Et en même temps, si on réfléchit profondément à ce que ça veut dire que ça serait fini, l'histoire de l'humanité. Qui veut de ça ? Voilà. Ceux qui ont voulu en finir avec l'histoire sont ceux qui nous ont fait les plus rudes catastrophes qui soient. Voilà. Qu'il n'y ait plus d'histoire. C'est-à-dire que plus personne ne soit... qu'il n'y ait plus de dérive, etc. Que tout le monde marche dans le même sens. C'est terrible, en réalité. Et la fin de l'histoire, elle peut venir d'un excès de la politique, mais elle peut venir aussi d'un excès de l'économie. Quand il y a quelque chose qui a... Ben, j'ai dit en passant, on pourrait dire, selon les expressions courantes, qui a perdu la raison. Une économie qui aurait perdu la raison. Et qui perdrait la raison, ça veut dire que, précisément, elle n'est plus que mot d'ordre. Elle est donc indiscutable, etc. Elle n'est pas contestable. Et elle subjective à mort. Ouais. Et subjectiver à mort, je le souhaite à personne.
Christian Perrin pose une question.
Oui.
Qui dit « Merci beaucoup pour votre propos. Diriez-vous que l'État est une forme supérieure de la communauté ? Et dans l'affirmative, l'idée d'un État démocratique est-elle encore pensable ?»
Ben, la question de l'État démocratique était effectivement pour moi une question. Voilà. Alors, j'ai plutôt envie de dire, a priori, que ça ne va pas de soi, un État. Je serais assez, au moins sur le plan conceptuel, et c'est pour ça que j'arrête pas, d'une certaine manière, d'avoir le livre de Catherine Malabou en tête. Je serais assez pour qu'on réfléchisse sérieusement à la notion d'anarchie. Mais alors cette fois, ou plutôt d'anarchisme, puisqu'elle fait une distinction entre l'anarchie et l'anarchisme. Alors l'anarchisme, ça serait précisément l'idée d'une société sans État. Alors qu'est-ce que... Prendre la question de votre question, Christian, par l'autre bout. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça serait une société sans État ? Est-ce qu'on peut imaginer une société qui serait sans État ? Peut-être qu'on peut dire aussi que... alors, État, c'est pas toujours écrit avec un grand E, avec un E majuscule. Je suis pas complètement sûr de ce que je veux dire, mais je crois que le passage de État, petit E, qui est donc un État de la politique, juste un État de la politique. Alors, l'État de la politique avec un petit E, c'est... la politique est... C'est pas mal ces temps-ci, c'est plutôt du côté de l'idéal. Ça se passe bien, ça discute, etc. Ou bien, elle peut être dans un mauvais état. Ça discute pas beaucoup... Le passage au grand E, qui supposerait que l'État soit quelque chose de spécifique, il me semble que c'est Machiavel qui soumet la notion de politique à la stratégie étatique. Donc il faudrait voir, est-ce qu'il peut y avoir une fonction ? Alors est-ce qu'on continue à penser avec ce grand E ou pas ? Voilà, quelque chose de ce type-là. Après, je vais ajouter encore un mot, c'est que je parle beaucoup souvent avec le mot « administration », etc. Dans la cité grecque, telle que pour les connaissances que j'en ai, il y a la politique qui consiste à discuter. Peut-être on pourrait dire de la nomos, c'est-à-dire des répartitions et des emplacements. Donc dans l'idéal en tout cas, quand la politique est au plus près de son idéal, c'est ça qui se passait. Un certain nombre de gens, en tout cas pas tous, mais quand même déjà un certain nombre de gens venaient discuter du bon placement, des bonnes répartitions, des bonnes divisions des richesses, des choses comme ça. Et puis il y avait ensuite, alors je vais parler latin, mais des administrateurs. Et moi je rappelle souvent que dans administrateur il y a ministre, mais que dans ministre il y a minis en latin, ça veut dire le moins. Et c'est le contraire de magister, magis, ça veut dire plus. Les ministres sont ceux qui comptent le moins, littéralement. Et en fait la question c'est peut-être justement... que ceux qui sont dans les palais dont je parlais tout à l'heure, qui sont des majeurs dans la représentation que nous avons de la politique avec l'État grand E, c'est peut-être de penser que ces gens-là, en réalité, ne sont pas ceux qui comptent le plus en politique. Voilà. Donc ce serait une façon de dire, après tout, qu'il y a des fonctions administratives, je pense que c'est inévitable, mais peut-être pas surestimer les fonctions administratives. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais...
Oui, très bien.
Oui.
Une question. Tout à l'heure, vous parliez d'immanence, de transcendance. Est-ce que ça faisait référence à la Renaissance ?
À la Renaissance ?
Ouais.
Pourquoi vous pensez à la Renaissance particulièrement ?
Parce que, en fait, je pensais à un historien d'art qui s'appelle Giulio Argan, et aussi un autre qui s'appelle. C'est pour ça que je suis en train de dire des choses sur la Renaissance.
Ah oui. Alors non, je pensais beaucoup plus largement. Je pense que je pensais par exemple dans la Bible, il y a, on pourrait dire qu'il y a une représentation de la gouverne des hommes qui est fondée sur la transcendance et qui ne soutient pas une idée de la politique. Voilà, qui soutient une idée de la religion, du fait de se relier au transcendant pour aller chercher les règles de la conduite, c'est-à-dire les orientations, etc. Mais ça discute pas. Le principe n'est pas la discussion. Le principe est l'obéissance. Voilà. Donc dans une pensée de ce type-là, il n'y a pas de place pour l'idée de la politique, où la politique n'est pas un idéal. On peut dire ça comme ça, on peut retourner la phrase. Non. La politique, dans ce cas-là, n'est pas un idéal. Et je pensais opposer. Et je pensais qu'on pouvait opposer à ça une pensée dans laquelle, justement, la parole, quand Aristote dit l'homme est un animal politique, je vais deux phrases plus loin, c'est-à-dire parlant, la parole entre les hommes et la condition de la gouverne. Donc ça, c'est immanent. Il y a peut-être deux grandes représentations de la gouverne des hommes, fondée sur la transcendance et fondée sur l'immanence. Et je pense que la politique, dans sa notion idéale, prend le choix de l'immanence. On peut construire une représentation de l'existence tout à fait cohérente sur une base qui serait celle de la transcendance. C'est pas celle que je avec laquelle je réfléchis et même que je soutiens. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Il y a le micro de Pablo qui s'allume de temps en temps.
Ah, d'accord.
Mais est-ce qu'il a quelque chose à dire ou pas ? Je ne sais pas.
Non,
pas
en
fait,
il est tout ça.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que, en son idéal, en tout cas comme vous l'avez dit,
est-ce qu'on peut dire que,
qu'en son idéal, ou idéalement, la politique est anarchiste ?
Idéalement, la politique est anarchiste.
Anarchique, en tout cas. Parce qu'il me semble que...
Alors.
Parce qu'il me semble que vous la distinguez et du commandement, et du pouvoir.
Moi je pense pas... C'est bien d'avoir des questions comme ça, parce que du coup, je m'aperçois qu'il faut que je corrige des phrases. Je pense que la... Je pense pas que la politique soit idéalement anarchique. Et je pense que c'est, ça serait, je sais pas, mon désaccord théorique avec le livre de Catherine Malabou, c'est-à-dire parce que je pense que là, c'est ça que je veux dire quand je parle de ce qui influe, de l'influence, etc. Peut-être on peut dire que l'idéal de la politique, c'est de se libérer de ce qui pourrait la commander ou ce qui même parfois la commande. De libérer les modes de décision quant à la conduite. D'un ensemble d'humains, de ce qui obère, voilà. Mais elle n'est pas. C'était quoi la question ?
Bah, c'est-à-dire dans l'idée de la politique qui ne serait pas quelque chose de l'ordre du commandement. Peut-être d'ailleurs est-ce quelque chose qui précède le commandement, le prépare d'ailleurs, enfin en quelque sorte. Et il n'y a pas quelque chose comme un germe d'une sorte d'essence anarchique, en fait. Je ne dis pas qu'elle est anarchiste.
Moi, je pense pas que la politique soit anarchique au sens strict, c'est-à-dire où il n'y aurait aucune archie. Mmh. qui alors je ne dis pas qu'il la commande, mais qui la précède. La politique est précédée. Voilà ce que je pense. Alors ensuite, de ce qui la précède, et qui influe en tant que précédent sur elle, elle peut être le relais, plus ou moins consciente elle-même d'opérer ce relais, ou elle peut être au contraire ce qui prend de la distance, prend du recul, ce qui aide à prendre du recul. Est-ce que la politique, autrement dit, c'est ce qui nous permet de prendre de la distance par rapport à ce qui influe sur nos existences et qui serait d'ordre économique, des dispositifs, etc. Ou si elle n'est pas ça, alors pourquoi est-elle là ? En fait, peut-être elle est là pour relayer, dans ces cas-là, les dispositifs de pouvoir, avec plus ou moins, encore une fois, de franchise. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la politique idéale. C'est la politique réelle qui travaille non pas selon des principes d'existence, mais avec des buts, pour des buts. Et voilà.
Et pour compléter ce que disait Wafé, est-ce que, parce qu'il y a Graeber, par exemple, qui fait un lien entre, pour lui, c'est quasiment synonyme de parler d'anarchie et de démocratie. Il développe ça dans un petit livre, c'est au marge de la... est-ce que, à ce moment-là, ça serait la politique démocratique qui pourrait se rapprocher de quelque chose qui serait anarchique, dans le sens où tu l'as dit tout à l'heure?
Moi je pense qu'il y a deux étapes, au moins deux, enfin disons... En fait, il y en a plus, bien entendu, mais dire... Bon, il y a un moment où émerge, dans l'histoire de l'humanité, l'idée de politique. Déjà, pour qu'émerge l'idée de politique, je suis désolé d'être aussi sommaire, il faut parler grec. Parce que c'est un mot grec. Alors, je ne sais pas s'il y a de la politique dans la Perse, je ne sais pas s'il y a de la politique dans l'Égypte, qui ont précédé le moment grec, etc. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait des modalités de gouverne de l'humanité qui ne soit pas politique. Pourquoi ? Parce que l'idée d'une humanité qui aurait à se gouverner, c'est-à-dire qui serait libre de détermination a priori, donc qui serait en défaut d'origine, enfin, etc., ne s'est pas forgée dans toutes les cultures, dans tous les moments historiques. Bon. Donc, à un moment donné, sous certaines conditions, que certains historiens nous aident à un petit peu concevoir, réfléchir... une idée s'est forgée selon laquelle les humains avaient à se gouverner eux-mêmes. Après, à qui d'entre eux s'en remettait-il pour opérer cette gouverne ? Alors là, commence un certain nombre de problèmes concernant les régimes de la politique. Et à un moment donné, il y a une invention qui pousse l'idée de politique jusqu'à, selon mon langage à moi en tout cas, l'idée de démocratie, et qui consiste à dire, alors avant que ça soit démocratie, dans la langue du VIe siècle des Grecs, c'était isonomia. Hein, isonomie et pas tout de suite démocratie. Donc il faudrait réfléchir sur tout ça. Enfin bon. Mais à un moment donné, donc il y a l'idée de politique est poussée jusqu'à l'idée de démocratie, qui consiste à dire le kratein, le commandement. Parce que démocratie, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense, etc. Il y a du commandement dans l'affaire. Hein. Kratein, le commandement procède de quelque chose qui s'appelle démos. Voilà. Et dont la première signification, on le voit bien chez Platon, on le voit dans les textes pré-platoniciens et de l'époque, la première signification que je voulais donner en passant tout à l'heure, c'est ceux qui habitent les quartiers. C'est-à-dire, il ne faut pas être noble. Faut pas être bien né, faut être né tout simplement. Faut opérer dans les quartiers, parce que qu'est-ce qu'on fait dans le démos, dans plusieurs textes de Platon dont je me souviens en les regardant en grec, on travaille. On travaille, on produit, etc. Et donc, y a, à un moment donné, il y a cette idée que on allait s'en remettre pour décider de l'orientation à ceux qui habitent dans les quartiers. d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas oublié ta question en cours de route.
Non, non, enfin, c'était plus pour un petit peu être dans ce que disait Waffé, pour poursuivre là-dessus, et puis pour ramener la référence de Graeber, en fait, qui disait, qui soutient... J'ai l'impression que tu es plus proche quelque part de ça, de ce que dit Graeber, ou de ce que tu essayes de développer Graeber, qu'il a après aussi redéveloppé dans ce truc-là. Au commencement était, mais effectivement, on ne parle pas de politique, là. Enfin, j'entends tout à fait ce que tu dis. Mais donc, dans le sens où peut-être ce dont Waffé, mais je ne sais pas, faudrait qu'elle essaie de dire, peut-être qu'elle parlait aussi de peut-être l'idéal politique démocratique. Et dans ce sens-là, ce serait un régime.
C'est pas la même chose pour moi, ce qui est au principe de la politique et ce qui est au principe du commandement. Mmh. Alors que, parce que anarchie, il n'y a pas l'archie, c'est pas l'équivalent de Kratein. Et dans démocratie, je suis désolé, il y a Kratein. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que, pour retourner la question aux anarchistes ou aux tenants de l'anarchie, qu'est-ce qu'ils font du commandement? Voilà. Qui commande? Comment est-ce qu'on procède pour ça? Est-ce qu'il y en a? Etc. Voilà. En tout cas, moi, je dirais le principe de la politique, c'est pas nécessairement le principe du commandement, puisque précisément. L'idéal de la politique, c'est de ne pas être... L'idéal de la politique, ça serait de être le moins dupe possible de ce qui est susceptible de commander la politique, extérieurement à elle, enfin, à dire, avant même les mœurs, etc., qui pourraient la commander. Donc de trouver une manière d'être à distance... Je ne vois que ça pour soutenir l'idéal de politique, trouver une manière d'être à distance de ce que j'ai appelé la morale, qui elle commande, voilà, qui elle commande, mais d'un commandement qui n'est pas explicite ou pas explicité tant que ça, dont les mots sont pas discutés, voilà. Bon. Après, la question du régime de la politique, c'est qui participe à la discussion et comment on organise cette discussion. Alors ça, évidemment, c'est un problème extrêmement compliqué. Alors même quand on a poussé l'idée de la politique jusqu'à l'idée de la démocratie, on n'a pas été capable, personne, aucune société n'a été capable jusqu'à présent de remettre la discussion politique à tous ceux qui travaillent dans les quartiers, les démos. Donc la démocratie est une idée qui n'a jamais, pour moi, été concrétisée. Donc ça aussi, ça m'agace quand on dit nos démocraties, comme si la question était réglée, quoi. Mais littéralement... le Kratein est remis à ceux qui sont les opérateurs dans le démocratie. Aucune société, pas même la nôtre aujourd'hui, alors, ça se traduit très simplement, ceux qui cotisent à la sécurité sociale sont plus nombreux que les électeurs autorisés à voter. Donc il y a plus de travailleurs dans les DEM, des producteurs dans les DEM, dans les quartiers, qu'il n'y a d'électeurs en droit. Hein, donc il n'y a pas, même dans une société qui se dit démocratique, il n'y a pas d'équivalence entre l'ensemble de ceux qui participent à la production, c'est-à-dire à l'économie, etc., à la base de l'existence, et ceux qui décident. Alors voilà, c'est des questions évidemment infiniment complexes. Et du coup, je n'ai pas répondu à la tienne.
C'était pas vraiment une question, mais c'était plus pour discuter.
Oui. Pas de questions à distance.
Pas de questions à distance.
Bah, il en reste plus qu'une de séance, hein, dans 15 jours.
Moi, je me demandais s'il y avait quelque chose qui faisait les communs, parce que les communs donc sont ceux qui vivent dans des habitations banales dans les quartiers. Mais peut-être, à l'époque grecque, puis on peut transposer aujourd'hui, mais il y a peut-être des dispositions d'espace qui font qu'il n'y a plus de quartier tout à fait et qui empêchent
ce commun d'exister, voire peut-être d'être prime sautier. Enfin, j'ai en tête une petite chose que j'avais lue de l'école de des philosophes de l'école de Francfort émigrés aux États-Unis sur la côte ouest, hein, et pour qui la dispersion de l'habitat soumettait les masses aux puissances de l'enseigne, enfin, dès qu'on dissolvait des masses qui pouvaient être résistantes, éventuellement, et les soumettait d'autant plus qu'elles étaient dispersées aux puissances de l'enseigne, des enseignes commerçantes.
Ben ça il faut discuter, c'est-à-dire que là, il faudrait lancer, il faudrait pouvoir diriger des recherches doctorales, vraiment, c'est-à-dire... C'est-à-dire les diriger à partir de questions et dire il faudrait chercher, est-ce que si je comprends bien ce que tu dis, c'est le contraire de ce que j'allais répondre moi spontanément. Donc il y a une discussion à avoir. Il y aurait une discussion à avoir. J'allais répondre que, au fond, ce que je pense, c'est que le commun des communs, le commun, tel que j'ai essayé d'en soutenir l'idée dans ce séminaire, c'est d'être pas commun au sens habituel du mot commun. Hein, c'est-à-dire, ce qui fait le plus commun, c'est la différence. De toute façon, même on pourrait utiliser un mauvais argument peut-être, mais je veux dire, le patrimoine génétique, il n'y en a pas deux pareils de chacun d'entre nous. Hein, donc en fond, le plus commun, ça n'est pas que nous nous ressemblions. C'est que nous différions, et d'ailleurs nous ne cessons de différer de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous suivront n'auront pas la même vie que nous, ils n'auront pas les mêmes goûts, etc. Bon, c'est ça le commun, fondamentalement. Et ce qui empêche le commun d'exister, ça peut être précisément de mettre les gens dans des conditions de vie qui sont semblables. Donc je pense, j'ai utilisé le mot demeure, c'est pas du tout la même chose que logement. Hein, donc il y a une politique du logement, comme on dit, qui n'est pas une politique idéale, mais il y a une politique du logement qui consiste à mettre les gens dans les mêmes conditions, etc., à gérer des masses, d'une manière générale. Alors est-ce qu'on peut faire autrement quand on est 6 milliards d'humains que de gérer des masses, etc. La question concrète est posée. Est-ce que, par conséquent, une politique idéale est réellement possible? La question est posée. Mais même si la politique idéale n'est pas réellement possible. Et même si des masses, il faut en gérer, en convoquer, en interpeller, etc., même, admettons, ça n'oblige pas à renoncer à l'idéal. Voilà. Et c'est peut-être important de toujours travailler dans ce sens-là. Donc moi, je répondrais, pour être aussi concret que possible, que peut-être un problème des conditions de logement dans les quartiers d'aujourd'hui, c'est précisément que ce sont les mêmes, alors que les gens ne sont pas les mêmes. Alors que les existences ne sont pas les mêmes. Et donc, on confronte des existants à des similarités qui nient leurs conditions existentielles. Et ça, je pense que ça produit beaucoup de souffrance, en fait. Alors, avant que tout le monde soit fatigué et dispersé, je voudrais dire que dans la prochaine séance, je m'appuierai beaucoup sur des choses qui se sont passées pendant la Révolution française, donc entre 1789 et 1794. Donc, éventuellement, si vous voulez réviser un peu l'histoire, parce que je ne pourrais pas tout raconter.
Vous avez des indications sur les choses en particulier, parce que ça fait quand même.
Oui.
Disons quand même savoir les grandes étapes, les trois constitutions, des choses comme ça, quoi. Enfin, je préviens, voilà.
C'est des devoirs, quoi.
Hein?
Devoirs pour la prochaine.
Voilà. Donc merci à tous pour votre patience et donc, a priori, à donc un jour.
Oui, j'allais remercier et de bonnes soirées et des merci beaucoup.